Géopolitique,
Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Les talibans seraient-ils devenus fréquentables ? Après les avoir combattus pendant 18 ans, les États-Unis négocient avec eux à Doha un accord de principe qui prévoit un retrait significatif des troupes américaines d'Afghanistan. En échange, les talibans s'engageraient sur deux points : cesser d'abriter des terroristes dans les zones qu'ils contrôlent et ouvrir des négociations de paix avec le gouvernement de Kaboul dans les semaines qui viennent à Oslo. Cet accord à 3 semaines d'une présidentielle à risque est-il un camouflet pour le chef de l'État, Ashraf Ghani, tenu à l'écart des discussions de Doha ? Va-t-on assister à l'effondrement de l'État afghan après le retrait progressif des troupes américaines ? Chassés du pouvoir en 2001 par cette même armée américaine, les talibans vont-ils redevenir les maîtres du pays et mettre à bas la fragile démocratie en place ? Quelle sera la stratégie d'Al-Qaïda et de Daesh dans la nouvelle configuration afghane ? On en débat avec nos invités. Karim Pakzad, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Olivier Guillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous aussi, chercheur associé à l'IRIS et au CERIAS de l'Université du Québec à Montréal. Et en ligne des Pays-Bas, Romain Maléjac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au CICAM, le Center for International Conflict Analysis and Management de l'université Nîmes. Romain Maléjac, comment les Américains en sont-ils donc arrivés à comprendre qu'il n'y avait pas de solution militaire à un conflit qui dure maintenant depuis 18 ans ? Est-ce que c'est le coût financier de la guerre, 50 milliards de dollars par an, le coût humain, près de 2400 militaires américains tués ?
Je dirais que le coût militaire est économique et humain, ça fait des années en réalité qu'il est clair. La vraie question, c'est pourquoi les Américains veulent partir aujourd'hui. Et il semblerait que ce soit pour des conditions purement domestiques, purement électorales. C'est-à-dire que Trump a annoncé plusieurs fois, il s'exprimait plusieurs fois sur le fait qu'il était important de quitter l'Afghanistan, que les États-Unis n'avaient pas vocation à rester de manière définitive en Afghanistan, de manière permanente en Afghanistan. Et la raison pour laquelle des forces ont été maintenues après 2014, c'est uniquement à cause de l'effondrement de l'État en Irak et la peur d'un scénario à l'irakienne en Afghanistan.
Olivier Guillard, c'est l'arrivée au pouvoir de Trump et sa volonté de faire rentrer les soldats à la maison, comme il l'a dit, qui a été vraiment l'élément qui a poussé les États-Unis à tendre pour de bon la main aux talibans, pourtant leur ennemi juré.
De toute évidence, les choses se sont un petit peu accélérées depuis que nous avons le 45e chef de l'État américain à la Maison-Blanche, donc un individu dont le jeu diplomatique, évidemment, est un peu sujet à caution à mains égards, quel que soit le dossier traité. Il y a une précipitation donc, qui est dénoncée par la plupart des acteurs, qu'ils soient ou d'outre-Atlantique, sur le terrain, ou dans les autres capitales occidentales qui ont payé à un moment ou à un autre de leur propre poche et du sang de leurs enfants, de leurs soldats, le coût de cette guerre sans fin. Cette précipitation, en définitive, pour arriver à un résultat, une fois encore, comme le disaient mes collègues, en phase avec le calendrier politique domestique américain, ce n'est pas d'aussi bon augure qu'il n'y paraît. Je me rends assez régulièrement en Afghanistan. J'ai accessoirement donc beaucoup de gens travaillant avec moi qui sont sur place. Et l'écho de ces négociations qui se font dans le dos des Afghans, donc entre les talibans, qui dans le même temps donc continuent à pourfendre les forces de sécurité afghanes, à frapper les civils dans le cœur de la capitale et dans d'autres grands centres urbains, dans d'autres provinces, qui discutent donc depuis un an maintenant avec les représentants de l'administration Trump, dans le dos du chef de l'État démocratiquement élu, dans le dos de la population. Personne ne sait exactement ce qui a été la feuille, entre guillemets, remise de cet accord de principe entre les talibans et l'administration américaine. Donc tout ça est relativement donc flou, scandaleux et vraiment difficile à convaincre. Toujours est-il que cette administration Trump va porter, pour le bien ou pour autre chose, donc la responsabilité de ce qui va advenir de l'Afghanistan ces prochains mois, ces prochaines années. Donc évidemment, des correctifs, des ajustements peuvent être effectués, mais ce qui se fait dans un recoin, entre guillemets, de Doha, entre l'administration américaine et les talibans, évidemment, augure de quelque chose qui ne satisfait pas plus que les Afghans pour la majorité d'entre eux.
Karim Pakzad, comment est perçu à Kaboul l'émissaire américain Zalmay Khalilzad, d'origine afghane, et qui a mené les négociations, qui mène encore les négociations à Doha ?
Depuis quelques jours, certains éléments de l'accord final entre le négociateur américain, M. Khalilzad, et les talibans sont connus, parce que Khalilzad a montré, même s'il a refusé de donner un exemplaire de cet accord au chef d'État, à ce point-là, le gouvernement afghan a été mis à l'écart de ces négociations.
J'imagine que c'est très mal vécu.
Absolument. Et surtout, au cours d'une rencontre à différents chefs de parti, des ex-mujahidines, les gens qui comptent en Afghanistan, Khalilzad a livré certains éléments de cet accord. Mais ce qui maintenant mis le feu au débat, c'est que dans cet accord, il est écrit que les Américains, en fait, traitent la question avec Emirati Islami Afghanistan. C'est-à-dire qu'il reconnaît Taliban comme un régime politique. Emirati Islami, c'est le nom de régime des Taliban. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la probabilité que les Américains acceptent la disparition de la République. République qui est instaurée en Afghanistan depuis une vingtaine d'années. C'est la raison pour laquelle la tendance est que dans les villes, auprès de la jeunesse, auprès des femmes, des forces politiques, de la société civile, c'est que, en fait, les Américains, quand on dit les Américains, essentiellement, on reviendra, Donald Trump, a envie de se retirer, quoi qu'il arrive, de l'Afghanistan et livrer l'Afghanistan aux talibans. Parce que la question de l'Emirati Islami, que pour les Afghans, rappelle la période noire et sombre de la gouvernance des talibans.
Donc les années 2001.
C'est quelque chose qui existe déjà. Ici en France, on ne dit pas le roi de Qatar, on dit Amir. Amir de Qatar, c'est-à-dire tous les pays arabes du Golfe Persique, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit le Koweït, tout ça, ce sont des Émirats islamiques. C'est-à-dire que cette notion-là, pour les Américains, c'est quelque chose de banal, de admis. Et y compris sur le plan idéologique, la façon de mener, c'est un islam rigoriste, même fanatique, comme c'est le cas de l'Arabie Saoudite et dans les autres pays de Golfe, arabes persiques, pour les Américains, ça pose pas trop problème.
Romain Malejac, l'accord de principe conclu à Doha, semble-t-il, ne mentionne pas de cessez-le-feu. Que vaut un tel accord sans cessez-le-feu? Puisqu'il faut souligner que le retrait américain est partiel. Donald Trump a annoncé que l'armée se retirait sous 135 jours de 5 bases militaires. Mais 8600 militaires américains sur les 14 000 présents actuellement resteront sur place en Afghanistan. Et ils sont toujours considérés comme une armée d'occupation par les talibans, et Olivier Guillard l'a dit il y a quelques minutes, les attentats continuent contre tous ceux qui sont considérés comme une force d'occupation.
Un accord de paix qui n'a pas de cessez-le-feu, et surtout qui ne contient pas non plus de dialogue intra-afghan pour le moment, jusqu'à démarrage de ces discussions, c'est en réalité un accord de retrait. C'est un accord qui prévoit le retrait des forces américaines et qui ne prévoit pas du tout la paix entre les talibans et le gouvernement afghan, et même les différentes forces afghanes. La réalité, c'est qu'il y aura théoriquement, d'après ce qu'on sait, il y aura un cessez-le-feu, en tout cas un accord entre les Américains et les talibans pour ne pas s'attaquer mutuellement. Mais tout laisse à penser que les violences vont être accrues entre le gouvernement et les talibans et entre les talibans qui vont commettre plus d'attaques. En réalité, effectivement, c'est pas un accord de paix. C'est vraiment un accord qui tend à faire des concessions aux talibans. Les talibans, c'est pour eux, ce sont des négociations d'opportunité, puisqu'ils voient bien que les Américains sont pressés de partir dans l'année qui vient. Et donc les talibans n'ont fait quasiment aucune concession. Cet accord, je répète, mais c'est pas un accord de paix.
Karim Pakzad.
Je crois qu'il existe le quatrième point de l'accord est porté sur le cessez-le-feu. Il y a des éléments dans cet accord. À titre d'exemple, les Américains ont accepté que dès la signature de l'accord, en 135 jours, à peu près 4 mois, ils vont retirer 5400 soldats de 5 bases militaires. Et à chaque fois que les Américains quittent une région de l'Afghanistan, les talibans annonceront le cessez-le-feu. Et ainsi de suite, lorsque le retrait des troupes américaines sera complète. À ce moment-là, il y a ce cessez-le-feu général. Ce cessez-le-feu est admis par des deux parties.
Mais cessez-le-feu entre Américains et Talibans, pas entre les Talibans, par exemple, et les forces gouvernementales.
Si. Vous voyez, pour qu'on comprenne facilement cet accord a quatre parties. Les deux parties concernent directement les Américains, à savoir lutter contre Al-Qaïda, ceci, cela, et deuxièmement, le retrait des troupes américaines, ça a été directement lié entre les deux parties. Et puis, il y a deux autres points de l'accord. Premier point, et le plus important, le plus délicat, qui commencera après la signature, c'est le dialogue inter-afghan. Pas le gouvernement afghan et taliban, mais les Afghans, peut-être un ministre, deux ministres se présentent, mais à titre personnel, mais une délégation des Afghans, des forces anti-talibans et les talibans. Et la période la plus difficile, et cette étape-là est destinée à définir le régime politique de demain, à se mettre d'accord sur la modification de la constitution afghane, comment assurer le droit des femmes à l'éducation, au travail, etc., etc. Et à la fin, ça, c'est la fin de la guerre et l'entrée de talibans d'une façon ou de l'autre au gouvernement afghan. C'est ça le processus qui, théoriquement, on a mis.
Théoriquement. Olivier Guillard, est-ce que les Américains ouvrent quand même une voie royale aux talibans vers Kaboul?
Bien entendu. C'est tout le principe, donc, quasiment scandaleux et triste de cette histoire. C'est que le sort des 30 et quelques millions d'Afghans se joue entre Doha, la hiérarchie talibane et l'administration américaine, sans qu'on demande exactement donc et aux forces afghanes, et à la population, et à la société civile ce qu'elle en pense. Et il y a fort à parier que cette population donc qui est mise complètement de côté, c'est les autorités démocratiquement élues, donc avec les limites réserves, un petit peu qu'on connaît de l'exercice. Donc tout ceci se joue loin du sort des Afghans, qui pourtant demain ou après-demain, donc d'une manière quasi certaine, vont devoir rendre des comptes, donc comme ce fut le cas lors du quinquennat de 96 à 2001, à un émirat islamique taliban, qui évidemment aura un coût considérable sur la vie quotidienne, sur le sort des individus, puis surtout, peut-on simplement faire confiance aux talibans? Peut-on simplement faire confiance sur la base d'un accord conclu à la hâte avec les Américains? Nous ne vous attaquerons plus, nous ne conserverons plus des liens importants avec les mouvements terroristes internationaux, nous maintiendrons le système politique tel qu'il est, nous veillerons au bien-être de la population, mais évidemment, personne n'achète ce genre de faux accords, c'est juste que les talibans doivent rire aujourd'hui quand ils discutent avec le représentant de l'administration américaine en disant « on peut absolument tout lui vendre, tout lui donner, lui est pressé par le temps, nous le sens de l'histoire nous ramène vers Kaboul, le sens de l'histoire également l'administration américaine actuellement ». Donc effectivement les talibans doivent se dire que la vie aujourd'hui est facile pour nous, nous arrivons au pouvoir, on continue à tuer donc des populations civiles tous les jours, à battre donc des forces d'Afghanes, police et armées, donc exsangues. Donc les forces spéciales sont totalement au bout du rouleau. Et pourtant, donc tranquillement, dans le confort de bureau climatisé à Doha, avec le représentant de l'administration américaine, on négocie ce retour politique demain, sans violence, sans passer par les unes au pouvoir. Évidemment qu'ils sont contents.
Romain Maléja, que vous êtes d'accord?
Non, je suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment ce qui a été dit par Karim Pakzad. En réalité, le cessez-le-feu, les points 3 et 4 de l'accord ont été quasiment abandonnés. Donc, le dialogue intra-afghan devrait effectivement démarrer bientôt, mais non pas avec le gouvernement, mais avec une délégation afghane, dont des membres du gouvernement, puisque les talibans ont refusé de reconnaître le gouvernement. Ils ne veulent pas parler directement au gouvernement.
Qui considère comme une marionnette, en général, c'est la façon
exactement
dont ils en parlaient. Marionnette aux mains des Américains.
Ils considèrent le gouvernement comme une marionnette et ils considèrent que eux sont le réel pouvoir afghan, donc représentent l'État afghan ou l'émirat afghan. Donc déjà il y a ça. Il semblerait que les talibans on ait fourni aux talibans une liste de ces 15 personnes qui seraient amenées à négocier avec eux, donc ce qui laisse penser qu'il y aurait éventuellement un veto sur ces questions. Et les talibans ont également annoncé ouvertement, publiquement, par moyen de vidéo, qu'ils avaient gagné la guerre en Afghanistan, que cet accord montrait qu'ils avaient gagné la guerre, qu'ils avaient mis les Américains à genoux. Et ils ont également annoncé qu'ils allaient continuer la guerre armée contre le gouvernement. Et les Américains ont même réagi en disant qu'ils allaient soutenir l'armée afghane. Ils allaient continuer à soutenir l'armée afghane, même s'ils n'allaient pas directement s'engager dans les combats avec les talibans.
Une élection présidentielle est prévue le 28 septembre. Est-ce que vous pensez, Olivier Guillard, qu'elle aura lieu malgré les menaces des talibans de tuer quiconque y participerait?
Alors, j'étais il y a 5 ans, donc j'assistais au premier tour de cette élection présidentielle qui s'est déroulée dans les conditions comptables et de bonnes pratiques que l'on connaît. Celle-ci ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Et en revanche, que l'on soit en faveur de ce scrutin ou non, on peut évidemment se dire quelle est la logique de mener un scrutin présidentiel en même temps que des négociations de paix qui se déroulent une fois encore dans le dos des autorités. Tout cela ne fait aucun sens. Il y a une priorité à avoir. Le gouvernement démocratiquement élu, le chef de l'État, disent priorité d'abord à ces élections. Ensuite, après, en fonction de l'administration qui résultera donc de ce scrutin, nous pourrons discuter donc un plan de paix, des négociations de paix qui vont être ardues, qui vont être longues. Il va falloir donc avoir un haut niveau d'acceptation de la frustration pour un petit peu les revers et la durée de ce genre de processus complexe. Comment peut-on simplement consacrer autant d'énergie à des élections et à un processus de paix, deux faits différents parallèles dans un État qui est un État, une fois encore, totalement démembré qu'est l'Afghanistan. La population ne s'y retrouve pas, elle ne croit pas plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans et qu'il y a 10 ans donc, dans la façon dont la démocratie est traitée dans ce pays. Et de l'autre côté, donc, elle se dit, alors ce scrutin-là, on va peut-être pas y participer parce que, vu comment ça s'est passé la fois dernière, d'un autre côté, on ne sait pas non plus ce qui se passe dans notre dos, dans ces processus de négociation de paix américano-talibane. Donc les Afghans ne s'y retrouvent pas et il serait assez logique que l'on définisse soit, évidemment tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'a pas le même calendrier, l'administration Trump et l'administration Rani et les talibans n'ont pas tous exactement le même calendrier, ça ne fait aucun sens de tenir des élections et des processus, un processus de paix aussi complexe en même temps. Il faudrait définir soit un calendrier, repousser dans le temps l'organisation de ce scrutin, soit le maintenir et dire, bon, et priorité au scrutin, les Afghans ont la parole via leur bulletin, qu'ils expriment un petit peu leur façon dont ils conçoivent politiquement leur avenir. Et après, peut-être, avec cette administration, nous reprendrons ce complexe processus de paix. Les Afghans ne s'y retrouvent pas, ni dans un côté, ni dans l'autre.
Karim Bagzad, est-ce que les gens vont aller voter le 28 septembre ?
Non, je ne pense pas. Je pense d'abord plus de moitié du pays est sous le contrôle direct ou indirect de talibans qui empêcheront.
Plus de 50% du territoire.
Absolument. Deuxièmement, le gouvernement actuel est discrédité autant que les talibans. Et donc, troisièmement, personne n'est sûr et certain que ces élections auront lieu, même avant sûr. Donc, ça, c'est pas le point le plus important. Le point le plus important, moi, je crois que je ne suis pas d'accord à certaines choses qui ont été dites. Il faut revenir au fondement de toutes ces choses. Cette négociation sur un accord, a été entre les talibans et les Américains. Mais d'un côté et de l'autre, ils n'étaient pas unis. En fait, du côté des talibans, uniquement, on l'appelle conseil de co-état, c'est-à-dire les talibans historiques de la région du sud de l'Afghanistan qui sont installés à co-état, essentiellement, ce sont eux qui, vraiment, la majorité des talibans composent la majorité, qui ont mené ces négociations. Mais d'autres commandants à l'intérieur, comme a été signé, qui a menacé que non, nous allons continuer la lutte jusqu'à le renforcement du régime. Et surtout, on ne sait pas encore le réseau Haqqani, qui est un réseau extrémiste, le plus extrémiste.
Lié à Al-Qaïda.
Lié à Al-Qaïda, qui est également présent au sein de la Taliban, n'a pas participé à ces négociations. De l'autre côté, du côté américain, tout le monde n'est pas d'accord. De plus en plus, il y a des voix s'élèvent pour dénoncer cet accord. Mais je rajoute un seul. D'après les personnes, plusieurs personnes que j'ai rencontrées, que ont rencontré les talibans à Doha et à Moscou, les talibans d'aujourd'hui, vraiment, d'après eux, ne sont pas les mêmes talibans d'il y a 20 ans.
Les talibans ont-ils changé depuis 2001 ? Sont-ils divisés entre fondamentalistes et modérés, entre guillemets ? On va en reparler dans la seconde partie de Géopolitique. On se quitte le temps d'un nouveau journal sur RFI et on se retrouve dans 10 minutes avec en studio Karim Pakzad et Olivier Guillard, chercheurs à l'IRIS, et en ligne des Pays-Bas, Romain Maléjac, professeur au SICAM de l'université de Nimègue. À tout de suite. Géopolitique.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique consacrée aujourd'hui à l'Afghanistan et aux conséquences de l'accord de principe conclu à Doha entre les États-Unis et les talibans. Accord qui prévoit le retrait progressif de plusieurs milliers de soldats américains. Nous sommes toujours en compagnie de Karim Pakzad et Olivier Guillard, chercheurs à l'IRIS, et de Romain Maléjac, professeur au SICAM de l'université de Nîmes aux Pays-Bas. Romain Maléjac, on se souvient des années où les talibans étaient au pouvoir à Kaboul de 96 à 2001, les lapidations dans les stades, les filles privées d'école, la musique interdite, les brigades de répression du vice, l'absence de liberté publique. Est-ce que les talibans de 2019 ont changé par rapport aux talibans de 2001 ?
Je ne crois pas, non. Pas dans la manière dont ils veulent exercer le pouvoir ou la manière dont ils exercent le pouvoir. Il y a plusieurs éléments qui nous indiquent que les talibans n'auraient pas changé. C'est d'une part parce que dans les zones qu'ils contrôlent, ils exercent toujours le pouvoir de la même façon. Et donc tous les sujets que vous avez évoqués sont toujours d'actualité dans ces zones-là. Et d'autre part, même s'il y a un discours qui est adopté, qui est un petit peu différent à Doha, les membres de la délégation afghane qui ont rencontré les talibans à Doha et qui ont donc discuté du droit des femmes, des questions de liberté de la presse, des questions de gouvernance, etc., ont tous déclaré que les talibans, d'une part, étaient très vagues sur ces questions, d'autre part, qui récitaient des positions apprises par cœur, et qu'ils ajoutaient toujours qu'ils étaient en accord avec tous ces sujets-là, dans la mesure où ces sujets restaient en accord avec les principes de l'islam. Et on sait que les principes de l'islam, selon les talibans, selon l'interprétation de l'idéologie des talibans, c'est un islam extrémiste, fondamentaliste, avec une interprétation très stricte de la charia, et donc des valeurs qui n'ont en réalité pas changé.
Et ils rejettent toujours donc le système de démocratie à l'occidentale.
Ah oui, ils sont exprimés très clairement sur le fait qu'ils étaient absolument opposés aux élections. Et ils ont aussi très clairement exprimé le fait qu'il ne pouvait y avoir qu'un type de régime et que ce serait de nouveau un émirat.
Olivier Guillard, est-ce qu'il y a des talibans plus modérés, entre guillemets, que d'autres ?
Alors, c'est un petit peu l'idée que certains interlocuteurs qui ont intérêt à présenter cette insurrection radicale dont on présente plus les méfaits au quotidien depuis au moins un quart de siècle, qu'on me présente un taliban modéré, je n'en ai pas encore vu. Alors, on nous dit qu'il y a des talibans qui seraient fréquentables, qui seraient moins opposés au fonctionnement d'une société telle qu'elle est aujourd'hui en Afghanistan, imparfaite, mais malgré tout donc infiniment moins rigoriste que ce que proposent l'émirat. Il y aurait des talibans qui seraient des talibans extrémistes ou fondamentalistes repentis, qui eux donc seraient à la pointe d'une velléité de sortir donc ce pays de cette impasse, quitte pourtant donc à les rapprocher davantage de leur modèle politique que de celui en cours. Ça fait un quart de siècle que je me promène en Afghanistan. Des talibans, j'en ai rencontré de toutes les couleurs, si je peux dire, de tous les âges, donc je n'ai pas encore rencontré de taliban qui est véritablement donc un projet de société adapté au XXIe siècle pour les 30 millions d'Afghans. Donc je considère un petit peu que les talibans de la fin du siècle passé et les talibans de cette fin de décennie sont radicalement, ou dans une grande mesure, les mêmes et que leur projet propre n'a pas dû bouger énormément par rapport à la dernière fois ou la seule fois où ils étaient au pouvoir en Afghanistan, et c'est bien triste.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'inquiétude de la population afghane face au possible retour au pouvoir des talibans, mais en même temps, les talibans occupent donc la majorité, plus de 50% du territoire. Ça veut dire qu'ils ont aussi des soutiens au sein de la population afghane, sinon ils ne pourraient pas occuper plus de 50% du territoire. Karim Pakzad.
Oui, mais je crois qu'on a une connaissance assez déformée de la situation en Afghanistan. Parce que ici, moi-même, ici, quand on essaye d'analyser, de juger la situation là-dessous, de juger les différentes forces politiques, on essaye de partir avec notre propre chemin, notre propre vision, comme vous l'avez souligné, la démocratie occidentale. C'est ça qui pose le problème. Vous voyez, il n'y a aucune distinction en termes d'idéologie, en termes de conception, en termes de voir la société, hein, entre Mujahideen afghan, entre Taliban, Al-Qaïda ou Daesh. Ils sont tous inspirés d'une même source, c'est le Coran. Voilà, le shariat. Ensuite, la pratique, comment on pratique ces éléments-là, c'est différent d'une organisation de l'autre. Je vous donne un titre d'exemple. Les talibans mènent des attentats suicides. C'est la forme extrême d'extrémisme religieux. qui font des victimes civiles. Mais à chaque fois, il mène ses attentats dans un lieu où il y a des étrangers, où il y a des forces de sécurité, où il y a un bureau, etc. Alors que le fils du commandant Ahmad Shah Massoud, qui il y a quelques jours a lancé un mouvement politique, où il parle nettement, clairement d'un islam modéré. Oui, donc le source c'est la même entre les différentes parties, mais la façon de l'appliquer est différente. C'est la raison pour laquelle il faudrait vraiment ne pas mettre tout le monde dans un sac. En même temps, il ne faut pas le distinguer d'une manière fondamentale.
Alors, le fils du commandant Massoud, justement, Ahmad Massoud, Olivier Guihard, est-ce qu'il peut représenter un espoir puisqu'il veut bâtir une grande coalition anti-taliban?
Alors, bon courage donc à ce nouveau venu, qui évidemment qui profite du lustre de son père. On trouve encore, une vingtaine d'années après l'assassinat par Al-Qaïda de son père, le légendaire Shah Massoud, on trouve encore de ces posters qui sont supérieurs en format à ceux des autorités démocratiques, enfin des autorités élues en fonction en tous les cas à Kaboul. Est-ce que c'est un espoir? En tous les cas, c'est un élément nouveau, c'est un élément qui fédère une bonne partie de la population qui est radicalement anti-taliban, qui est anti-chaos dans la société. Là, on parle du nord-est du pays, du Badakhshan, du Panjshir, donc de cette région qui est historiquement hostile à tout ce qui est élément et exogène et élément radical dans la société afghane. Cette voix donc qui est relayée, qui est soutenue par la population jeune, la population qui est celle qui hier donc essayait de promouvoir une sorte d'unité nationale, donc au-delà des ethnies, du discours politique et des ambitions pour ce pays demain, c'est un élément qui s'intègre en plus dans un paysage politique qui est déjà compliqué. Il n'est pas nécessairement le bienvenu auprès de ses, on va dire, concurrents naturels. En tous les cas, c'est une voie supplémentaire qu'on va devoir pouvoir prendre en compte. Je pense également que c'est une voie qui va trouver un certain relais du côté de Monsieur Abdullah Abdullah, qui est le président en devenir depuis déjà une décennie, mais malheureux à chaque scrutin, à chaque élection présidentielle, il arrive en tête largement au premier tour et au second tour bizarrement, donc son challenger lui met 20 points d'avance entre guillemets dans le bilan comptable. C'est un élément à prendre en compte. Ça ne va pas radicalement changer les choses qui sont, une fois encore, pour l'instant on a le sentiment qu'elles sont davantage façonnées du côté de Washington et de Doha que de Kaboul.
Romain Maléjac, est-ce que le fils du commandant Massoud a le même charisme que son père?
Assurément non, puisque déjà il est très jeune, il n'a pas fait la guerre. Donc c'est impossible de parler de même charisme. J'en ai parlé avec des panchiris très haut placés dans le gouvernement afghan qui, de manière anonyme, reconnaissent que non, que c'est pas possible, puisque le commandant Massoud a été forgé par des décennies de guerre et a prouvé sa légitimité, si vous voulez, sa légitimité militaire avant tout sur le terrain et sa légitimité politique en fournissant des services à la population sous son contrôle. Mais je crois que Ahmad Massoud, c'est un épiphénomène en réalité. C'est un épiphénomène qui montre quand même une tendance lourde, puisque Ahmad Massoud s'est également exprimé en disant qu'il était prêt à prendre les armes s'il fallait. Et la tendance lourde, c'est que même dans les années qui ont précédé 2014 et le premier supposé retrait américain, ce qu'on voit, c'est que les commandants, les anciens commandants de l'Alliance du Nord, Moudjahidine ou même qui ont combattu les Moudjahidines dans les années 80, se sont réarmés. Ils sont en train de remobiliser leurs hommes et sont en train de réarmer en cas de guerre civile généralisée.
Vous êtes plutôt pessimiste. Vous pensez que le retrait américain va forcément provoquer une guerre civile en Afghanistan?
Forcément non, j'espère pas, mais si le retrait devait se préciser dans ces conditions-là, dans l'année qui vient, et donc qui donnerait la main, le pouvoir aux talibans d'une manière ou d'une autre, politiquement et militairement. Oui, il est difficile de voir d'autres scénarios. Soit il y a un effondrement de l'État, et dans ce cas-là, effectivement, une guerre civile généralisée, avec des acteurs comme les talibans, les anciens commandants et chefs de guerre, et même l'État islamique. Soit les talibans parviennent au pouvoir, soit on peut avoir un gouvernement qui arrive à quand même contrôler les villes les plus importantes dans un premier temps avec des régions qui deviendraient de plus en plus autonomes, soit sous contrôle de chefs de guerre, soit sous contrôle de l'État islamique, soit sous contrôle taliban.
Vous écoutez Géopolitique.
Thank you. Karim Bagzad, l'État islamique, le groupe État islamique, quel est son poids aujourd'hui en Afghanistan?
Oui, je répondrai sur cette question, mais avant, il faudrait quand même dire deux mots sur Ahmad Massoud. Je pense qu'il ne faut pas vraiment le juger d'avant, avant même qu'il commence à mener ses actions. Mais regardez les conditions dans lesquelles Ahmad Massoud quitte Londres à l'étranger, une vie assez confortable.
Et il a suivi une formation militaire à l'université de Sandhurst.
Et il vient s'installer à Panjshir. Il faudrait connaître ces conditions. Deux éléments essentiels l'a poussé. D'abord, M. Guyard a mentionné un petit peu, c'est que, vous voyez, l'Afghanistan, c'est un pays multi-ethnique. Toute action politique, les relations politiques, tout ça s'est fondé sur des relations ethniques. Depuis 18 ans, les Tadjiks, qui avaient le pouvoir à un moment donné, ont perdu.
Donc l'ethnie du commandant Massoud.
L'ethnie du commandant Massoud. Ils ont perdu ce pouvoir. Et par la suite, ils se sont divisés entre eux. Tout ce qui entourait le commandant Massoud, aujourd'hui, il se trouve deuxième sur une autre liste, ainsi de suite. Massoud, le fils du commandant Massoud, a comme ambition d'abord de redonner l'unité des Tadjiks. Et il y a quelques jours, quand il a rassemblé les anciens commandants Mujahideen, hein, avec les jeunes qui le soutiennent, l'ensemble des commandants Mujahideen qui travaillaient avec son père, à la manière afghane, ont annoncé leur fidélité et obéissance à Ahmad Massoud. C'est un élément extrêmement important. C'est-à-dire qu'ils commencent maintenant à mener des activités d'abord pour unir à nouveau les Tadjiks. Et deuxième élément, en fait, pourquoi il a, avant même qu'il montre sa capacité quand même, on ne sait pas encore s'il a vraiment la capacité de mettre en pratique ce qu'il dit, pourquoi avant ça, il est populaire parmi les jeunes? C'est qu'il exprime la crainte de la population, notamment de la jeunesse, des femmes, enfin ceux qui ont fait des études, des citadins, etc., notamment les femmes. C'est parce qu'il exprime leur crainte vis-à-vis de cet accord qui, en réalité, les Américains essayent d'avoir une influence en Afghanistan avec les talibans. C'est ça l'objectif des Américains, en fait. Ils ne pouvaient pas avoir le gouvernement de ancien gouvernement, le gouvernement de Ashraf Ghani, qui le soutenait quand même. Mais avec les talibans, demain, ils pourraient avoir une stabilité en faveur des Américains. En fait, sur le plan de démocratie occidentale, si vous voulez, les talibans, ils ne sont pas différents totalement de régime de l'Arabie Saoudite, de l'Arabie ou de l'Émirat, ou de Bahreïn. Oh, ces pays-là, ce sont des alliés. Ce sont des alliés importants des États-Unis. Vous voyez, dans les relations internationales, les grands pays, les grandes puissances, ils ne regardent pas trop sur la nature du régime. Les mots d'ordre tels que la démocratie, droits des femmes, etc., cache en fait d'autres réalités, à savoir les influences, le vrai intérêt des grandes puissances dans ce pays. Et les Américains se sont rendus compte qu'avec les talibans, ils pouvaient avoir plus d'influence, plus de stabilité, moins de dépenses en Afghanistan.
Les talibans donc incarneraient un retour à l'ordre, donc un retour à la stabilité, Olivier Guillard.
Alors, je crains...
Aux yeux des Américains.
Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord donc avec cette façon de voir les choses, en tout cas de les projeter. De toute façon, je doute que dès après-demain, les talibans et l'administration américaine soient encore sous le même pied de pseudo-accord préliminaire, de consensus athée, donc calqué sur le calendrier électoral américain. Je pense que de toute façon, il n'y a aucune raison qu'ils s'entendent après-demain. Personne ne va se faire confiance. Les talibans continueront certainement, à mesure que les États-Unis désengageront une partie de leurs troupes, donc selon un calendrier de 16 à 20 mois d'Afghanistan, les talibans vont continuer à attaquer ces postes, vont continuer à attaquer les forces de sécurité afghanes, vont continuer à attaquer les troupes internationales qui sont en soutien ou en formation. Cet accord-là, je considère qu'il est mort-né avant même d'avoir été officialisé. On ne s'entendra pas, ni sur le calendrier politique, ni sur le principe politique. Et je doute que les talibans jettent après-demain, hors du pays, tout ce qui est structure radicale, proche de structures internationales terroristes, à fort niveau de compréhension pour l'islamisme radical. Pour ça, il n'y a aucune chance que ça arrive. Vous disiez un mot tout à l'heure donc, de l'État islamique. L'État islamique se frotte les mains de ce de retrait des forces américaines et de cette possible participation aux affaires nationales des talibans. En disant, il y a des talibans, nous en connaissons beaucoup, qui rejettent aujourd'hui le principe de cet accord, ils le trouvent imparfait, c'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Et on dit, si les talibans demain donc arrivent ou reviennent au pouvoir, eh bien nous continuerons la lutte. Si ce n'est pas dans les rangs des talibans, ça sera dans les rangs de l'État islamique. Donc l'État islamique a, si l'on peut dire malheureusement, des parts de marché qui sont pour l'instant aujourd'hui presque résiduelles mais mortelles en Afghanistan.
Dans l'est du pays.
Notamment, bien entendu, et surtout une capacité forte à mener des attentats suicides dont parlait Karim tout à l'heure.
Et on l'a vu au mois d'août avec cet attentat contre un mariage Hazara à Kaboul, 63 morts.
Bien entendu, donc l'État islamique demain va prendre, du fait de cet accord et du fait de ces perspectives de paix, si tant est qu'elles soient véritablement mises en œuvre à court terme, va prendre une place de plus en plus importante, tristement, une fois encore, donc, dans ce pays.
Romain Malejacq, les talibans l'ont promis aux Américains, mais est-ce qu'ils vont vraiment empêcher l'Afghanistan de redevenir la base arrière du djihadisme mondial?
Alors, la promesse, déjà, c'est une promesse qui coûte pas grand-chose, à mon avis, aux talibans. Déjà, parce que si les Américains étaient amenés à se retirer entièrement, les Américains n'auraient pas vraiment de moyens de contrôle de cette promesse, hein, de ces garanties. Donc, ça faisait partie des points d'achoppement de faire en sorte de trouver des moyens de contrôle. En ce qui concerne l'État islamique, c'est une promesse qui n'engage à rien, dans la mesure où on sait déjà que les talibans et l'État islamique sont en guerre ouverte. Donc effectivement, il y a peu de chances qu'ils travaillent ensemble, si je puis m'exprimer ainsi. En ce qui concerne Al-Qaïda, on sait aussi que les talibans sont moins dépendants d'Al-Qaïda financièrement et militairement que par le passé. Donc c'est quelque chose qui est également pas très engageant. Donc moi je pense que s'ils pouvaient avoir accès au pouvoir à Kaboul, ils pourraient abandonner Al-Qaïda dès demain. Parce qu'en réalité, Al-Qaïda et les talibans, même s'ils ont des rapprochements idéologiques, n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Les talibans ne sont intéressés que par l'Afghanistan. Ils ne sont pas dans une lutte globale contre l'Ouest. Et par ailleurs, le seul point qui coûte aux talibans, en réalité, en ce qui concerne Al-Qaïda, c'est de dénoncer publiquement Al-Qaïda. Puisque ça voudrait dire qu'ils se couperaient de certains soutiens dans le monde islamique, en particulier dans les mouvances djihadistes. Et ça pourrait leur couper certains soutiens en ce qui concerne leurs commandants, qui pourraient décider, par exemple, de rejoindre l'État islamique.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des dissensions au sein des talibans par rapport à l'attitude à avoir vis-à-vis d'Al-Qaïda ?
Oui, il y a des dissensions qui existent aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui a été mentionné un peu plus tôt en ce qui concerne le réseau Haqqani. Il est plus proche, on le sait, qui a toujours été plus proche d'Al-Qaïda, qui est à la fois plus proche d'Al-Qaïda et plus proche des services pakistanais. Mais ces dissensions existaient déjà du temps de Ben Laden. Il y a une frange des talibans, du commandement suprême des talibans, qui voulait déjà se débarrasser de Ben Laden à l'époque. Donc c'est des dissensions qui existent, mais si l'objectif c'est d'être au pouvoir à Kaboul, je pense qu'il pourrait assez facilement se séparer d'Al-Qaïda. Le problème c'est que Haqqani, donc Sirajuddin Haqqani, le leader du réseau Haqqani, n'a pas l'intention de négocier pour le moment. Il est absolument opposé à l'idée de négocier. Donc tant qu'il sera opposé à l'idée de négocier, il n'y a pas de raison de couper les ponts avec Al-Qaïda.
Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Romain Malejacq, professeur au SICAM de l'université de Nijmegen aux Pays-Bas. Vous allez sortir en décembre un livre dont je vous laisse prononcer le titre.
Ça s'appelle Warlord Survival, The Delusion of State Building in Afghanistan.
Et ce sera publié aux presses de l'université de Cornell aux États-Unis. Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS, merci d'avoir été avec nous. Olivier Guillard, chercheur associé à l'IRIS et au CERIAS de l'université du Québec à Montréal. Vous avez publié De l'impasse afghane aux errances nord-coréennes aux éditions Nuvis à Paris. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand qui m'a aidé à la préparer. À demain, même lieu, même heure pour une géopolitique où nous débattrons des ambitions du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, veut-il devenir le maître du monde ? Bonne soirée.